100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Un altro giorno di guerra perenne è iniziato.
Bonjour à tous. La campagne pour les élections européennes a bien démarré en France comme ailleurs. Et en Italie, le parti d'extrême droite Lega, en coalition au pouvoir, a bien l'intention de s'appuyer sur un de ses médias historiques. Radio Padania Libera a été créée il y a 22 ans à Milan et elle a été dirigée par Matteo Salvini, l'actuel ministre de l'Intérieur. Des ondes assez dérangeantes pour que le vice-premier ministre Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles, l'autre partenaire de la coalition, menace de la fermer. Quelle est donc cette radio, facteur de tension au sein du gouvernement italien? C'est ce qu'a cherché à comprendre Franceline Beretti en se rendant dans leur studio.
02 66 20 35 29, pronto.
Pronto, sono io.
Buongiorno.
Comme tous les matins, après sa revue de presse, le directeur de Radio Padania Libera, Giulio Canarca, anime la libre antenne. On ne demande rien à l'auditeur en régie, pas même son prénom.
Ti passo Giulio?
Sì, grazie.
Ce n'est una prima.
Ce matin, il y a des commentaires sur l'actualité. Un ministre Lega soupçonné de corruption, le maire de Naples et son bateau pour recueillir les migrants. Et il y a les autres appels. Une vieille dame regrette la stupidité des intervenants, une autre réclame une chanson, une personne handicapée demande de l'aide car elle risque de perdre son logement. Il y a aussi un appel antisémite, immédiatement recadré par Giulio Canarca. Pour le journaliste, ça fait partie du jeu.
Quand tu ouvres le micro à tous, tu dois être prêt à entendre toutes les opinions. Je suis un grand défenseur de la liberté d'expression. Il ne faut pas avoir peur des mots. Tout le monde a le droit de s'exprimer. On doit pouvoir exprimer une opinion différente.
Ici, l'antisémitisme ou le racisme sont considérés comme des opinions parmi d'autres. En 22 ans, pourtant, la ligne a changé, comme celle du parti. Fini l'indépendantisme du Nord et l'émission « Ne jamais dire Italie ». Aujourd'hui, dans la libre antenne, les auditeurs appellent de tout le pays, même du Sud. Le passage de la Lega Nord à la Lega semble avoir été bien accepté. Giulio Canarca.
Moi aussi, ça m'a surpris d'une certaine façon, tout comme ça m'a surpris de voir tous ces votes pour la Lega en Italie du Sud. L'explication, c'est que la Lega s'est éloignée d'un programme réservé au Nord, la fameuse Padania, tout en portant à plus grande échelle le besoin de changement. Ce qui est resté, ce qui a toujours été la ligne de la Lega, c'est le changement. C'est ce qui réunit l'ancien et le nouvel auditeur.
Si les auditeurs suivent dans l'ensemble, il y a quand même eu des pertes. Pas seulement à cause du changement de ligne éditoriale. En 2017, le parti doit vendre ses fréquences hertziennes, faute de moyens. Depuis, Radio Padania n'émet plus que sur Internet et en DAB, la radio numérique. D'après le directeur, l'audience est passée de plus de 150 000 auditeurs à moins de 100 000. L'âge d'or de Radio Padania Libera est donc révolu, mais pour Alessandro Morelli, ancien directeur et député Lega, elle reste un formidable outil politique.
Elle nous permet de sentir où va le courant. Dans mon émission, voilà comment ça se passait. Je commentais d'abord les 3-4 gros titres de la presse généraliste. Mais ensuite, pendant l'émission, je me rendais compte que les gens parlaient d'autre chose. Et là, tu te dis, c'est moi qui me trompe? Ou alors ce sont la presse, les médias qui regardent la réalité avec un œil partial? Et c'est évidemment ça, parce que ce sont les gens qui ont raison, toujours.
Celui qui a parfaitement utilisé ce thermomètre, c'est Matteo Salvini. Il a dirigé la radio pendant près de 15 ans et y a appris deux choses fondamentales. Répondre à tout et savoir tout utiliser. Sa capacité à retourner les critiques est légendaire. Une discussion est même devenue culte. C'est un auditeur musulman qui appelle, favorable aux écoles islamiques. Écoutez.
Si je me souviens bien, il y a 15 ans, quand il y a eu les constructions des mosquées, vous en avez fait tout un plat. Et aujourd'hui, il y en a des centaines dans toute l'Italie. Ce sera pareil pour les écoles. L'important, c'est de poser la première pierre. Et je vous garantis que dans 10 ans, il y aura des centaines d'écoles arabes dans tout le pays. Alors je vous laisse manifester. Nous, nous faisons ce que nous avons à faire. Merci et bonne journée.
Matteo Salvini est ravi. Pour lui, cet appel illustre le danger des revendications de certains musulmans. Voilà sa réponse.
Je vous remercie de nous avoir téléphoné. Il est 10h18, nous sommes le jeudi 9 novembre 2006 et cette détermination honnête et cette sincérité en dit beaucoup plus que tous nos discours.
Cet échange est encore régulièrement diffusé, 12 ans plus tard. Aujourd'hui, en pleine campagne pour les élections européennes, la radio est donc toujours la voix du chef de la Lega. C'est même devenu un sujet de tension au sein du gouvernement. Luigi Di Maio, vice-premier ministre et membre du mouvement 5 étoiles, veut qu'elle cesse d'émettre en numérique. Selon lui, elle n'a pas le droit dans son statut d'être diffusée à l'échelle nationale. Difficile d'imaginer que la Lega se soumettra.
Et les fausses infos de cette campagne électorale, décryptées et analysées, c'est demain dans Accent d'Europe, une série spéciale d'émissions, mais aussi des films d'animation à retrouver sur le site de RFI dès aujourd'hui.
You have soldiers.
Vous avez les soldats.
You have spies.
Vous avez les espions.
And now you have hackers.
Et maintenant, il y a les hackers.
So, the war has begun.
La cyberguerre a commencé.
La cyberguerre et ses hackers de l'ombre, ce sera cela aussi l'un des enjeux des élections européennes. Dans un documentaire diffusé demain sur la chaîne de télévision Arte, le journaliste Étienne Huvert s'intéresse à ces nouveaux mercenaires russes qui agissent parfois sous l'œil bienveillant des services secrets, comme il l'a expliqué à Catherine Roland.
Il peut y avoir des personnes dans les services de renseignement russes qui travaillent à cette cyberguerre, mais il y a en dessous tout un environnement, tout un réseau cybercriminel qui peut être utilisé par le renseignement militaire russe. Et ces gens travaillent essentiellement souvent pour l'appât du gain. C'est pour ça que nous, on a retenu cette terminologie et ce terme de mercenaire. En matière de cybersécurité, tout est caché. C'est extrêmement difficile d'avoir des preuves d'une cyberattaque. Et donc, ça forme une espèce d'armée de l'ombre à la tête de laquelle, souvent, on ne peut retrouver que des États. Mais derrière, il y a tout un réseau et ça forme comme une armée de mercenaires de l'ombre, je dirais.
Alors, ces hackers, ils tiennent souvent à l'anonymat, bien sûr, hein, c'est leur fonds de commerce. Et pourtant, vous avez réussi à en rencontrer beaucoup, donc un Français qui s'appelle Xylitol, et surtout ces fameux hackers russes. Comment est-ce que vous avez réussi à les contacter ?
C'est compliqué à manier. C'est des gens qui, effectivement, n'aiment pas forcément beaucoup la lumière. Donc, on avait ici en France quelques amis qui nous ont aidés, qui avaient des contacts et qui ont fait passer le message de ce qu'on voulait faire. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi en Ukraine, parce que l'Ukraine est quasiment en guerre aujourd'hui contre la Russie. Et c'est vrai que les Ukrainiens sont sur la ligne de front de cette cyberguerre. Ils ont subi beaucoup d'attaques ces dernières années. Et eux-mêmes se sont armés avec un certain nombre de hackers qui cherchent à attaquer les Russes. Et c'est vrai qu'eux avaient aussi envie de montrer leur savoir-faire. Et d'une certaine manière, par un effet de prisme, on voit que derrière, ben, il y a les Russes qui sont aussi là, qui attaquent. Et on a réussi à avoir quelques-uns de ces hackers russes qui nous ont pas forcément expliqué qu'eux-mêmes hackaient l'Occident, mais on sent qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'Occident et un jeu qui peut être assez trouble avec les services secrets.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que les autorités russes vous ont laissé plus ou moins tranquille. Vous avez même pu filmer une audience d'un procès d'un célèbre hacker, Constantin, qui accuse lui carrément le FSB. Il dit avoir été recruté par eux.
On a travaillé librement en Russie. Les Russes nous ont donné des visas d'abord et on a pu aller dans des forums de hackers. On a pu approcher le président Poutine lors d'une conférence de presse avec le président Macron à Saint-Pétersbourg. On a pu approcher ses conseillers. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un climat quand même, dès qu'on touche à ces questions, extrêmement compliqué quand on est en Russie. Et on l'a vraiment vu dans ce procès de hacker russe, Konstantin Kozlovski. Si je commence à vous raconter son histoire, on va rentrer dans un roman à la John le Carré. Il a lui-même dit dans cette audience qu'il travaillait pour le FSB, pour les services de sécurité russes. C'est vrai qu'on sent là toute la complexité du rapport entre le pouvoir russe et ses hackers. Ils peuvent les utiliser de temps en temps et là, pour le coup, c'est ce qu'explique Konstantin Kozlovski.
L'espace russe est assez libre et très tolérant hein, pour ces hackers qui sont quand même, malgré tout, des cybercriminels. Mais il ne faut pas se retourner contre le patron. Et le patron ou le parrain, c'est Vladimir Poutine.
Dans cette enquête, on a réussi à infiltrer des forums de hackers russophones et sur ces forums où on échange des choses incroyables, il y a un mot d'ordre qui est surtout ne pas attaquer la Russie, c'est quasiment dans les règles du forum. Et si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que pour le pouvoir russe, il continue de nier à chaque fois qu'il y a une cyberattaque. Et en même temps, on laisse toujours un petit signe, quelque chose qui permet de montrer que vous êtes derrière. Et montrer ça, c'est aussi un aveu de puissance. Montrer que vous êtes capable de faire ce genre de cyberattaque extrêmement perfectionné, ça fait peur à l'Occident, ça fait peur aux États-Unis. La subtilité, elle est dans ce jeu-là.
Vous avez d'ailleurs rencontré aussi un ancien représentant de la NSA. Lui, il est très cash, hein, il dit espionner, hacker, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'utiliser des informations qu'on a soutirées au cyberespace pour influencer la vie d'un pays et la politique d'un pays, comme ça s'est passé au moment de l'élection de Donald Trump.
Voilà, c'est ça. Il dit, jusqu'à un certain point, on peut comprendre qu'il nous espionne, parce que nous, on est en mesure de faire la même chose. Mais par contre, les Américains disent, nous, on n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé sur les élections, le fait qu'il soit rentré dans les serveurs américains, dans les serveurs du Parti démocrate américain. Et ils ont des traces, ils ont des preuves de tout cela. On a rencontré le conseiller cyber de l'ancien président Barack Obama, qui nous a dit, moi, je suis absolument sûr que les Russes sont derrière. Et ça, influencer une élection aux États-Unis, c'est un crime de lèse-majesté pour toute cette communauté du cyber-renseignement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'escalade ne s'arrête pas, si vous voulez.
Et la France dans tout ça? Parce que je crois que vous avez posé la question à Emmanuel Macron également. Est-ce que la France est en moyen de contrer des cyberattaques? Est-ce qu'elle en a peur?
Alors la France, elle veut déjà pas trop dire que c'est les Russes qui sont derrière. Contrairement à quasiment tous les autres pays européens, que ce soit les Pays-Bas, les Britanniques, en France, on ne veut pas accuser de manière brutale et de manière directe le pouvoir russe. Et on dit, il est possible aussi que les attaques viennent d'ailleurs. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des éléments qui sont très forts, qui montrent que les Russes sont actifs. Au-delà de ça, la France, eh bien, elle se prépare aussi. C'est des milliards d'euros de budget qui sont mis sur la table. Et voilà, le ministère de la Défense a embauché plusieurs milliers de cyber-soldats, entre guillemets, ces dernières années.
Les nouveaux mercenaires russes détiennent Uber à regarder demain sur Arte. Un an après la révolution qui a porté au pouvoir en Arménie le journaliste et opposant de longue date Nikol Pachinian, où en est la démocratie? Où en est la lutte contre la corruption? À Erevan, Constance Léon est allée rencontrer les nouveaux acteurs de ce changement politique.
Il y a un an tout juste, Tatevik Erapetian faisait partie des milliers d'Arméniens à descendre dans les rues de la capitale pour protester contre la corruption du gouvernement du premier ministre d'alors, Serge Sarkissian. La jeune femme de 29 ans n'imaginait pas qu'en janvier, elle allait devenir députée au sein de l'alliance de partis créée par le nouveau premier ministre Nikol Pachinian.
J'aurais aimé voir les anciens députés aussi occupés que nous le sommes à présent. S'ils l'avaient été, beaucoup de choses ne se seraient pas passées. À présent, les gens se sentent proches des politiques car ils peuvent avoir un lien direct avec eux et avec ceux qui ont un rôle dans les prises de décision.
C'est justement le désir de plus de démocratie directe qui a donné l'envie à Gayane Evazian de créer un syndicat en janvier dernier. Elle voulait rendre plus transparente l'élection de la direction du musée Matena d'Arran où elle travaille.
Notre révolution a promu des principes de démocratie directe. Et justement, les salariés ont besoin de plus de liberté, de plus d'espace d'activité et de droits, bien sûr. Nous devons réformer le droit du travail actuel en Arménie, qui pour le moment ne respecte pas les droits de l'homme.
La révolution a créé les conditions idéales pour un meilleur dialogue social entre les institutions arméniennes en pleine réforme et une société qui s'ouvre au militantisme politique, selon le chercheur à l'Institut du Caucase, Rant Mikaelian. Mais de nombreux défis restent à relever.
On sent déjà une nouvelle fracture sociale entre les nouvelles institutions et la société. Le nouveau gouvernement représente la classe moyenne supérieure, quasi inexistante en Arménie, 10% de la société seulement. Les autres classes sociales sont encore oubliées. Certes, c'est un système plus démocratique puisque l'on passe de la représentation des 1% les plus riches aux 10% les plus riches, mais il nous reste du chemin à faire avant d'avoir une représentation homogène de la société.
Tatevik Erapetian fait partie de ces jeunes éduqués en Arménie qui ont rejoint les institutions post-révolutionnaires. En plus d'appartenir à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, la députée continue ses recherches sur le Haut-Karabakh, le territoire disputé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Avant la révolution, je me demandais tout le temps ce que je répondrais à mes petits-enfants s'ils me demandaient un jour ce que je faisais pour empêcher le pays de couler. Est-ce que je protestais assez ? Et maintenant, je sais qu'ils me demanderont des comptes sur la manière dont j'ai dirigé le pays quand j'en ai eu l'opportunité.
How did you manage to take the country out from the hole it was in?
Qu'est-ce que tu as fait pour sortir le pays du marasme? Eh bien là, je suis en train de préparer les réponses aux autres questions de mes petits-enfants.
Upcoming questions from my grandchildren.
De nombreux défis attendent en effet le gouvernement de Nikol Pachinian. Et les attentes de la société civile arménienne un an après la révolution sont grandes. En particulier sur les réformes fiscales, la création d'emplois et la lutte contre la corruption des oligarques qui contrôlent toujours l'économie arménienne.
Les fans absolus de Star Wars avaient fait le déplacement le week-end dernier en Irlande pour le festival May the Force, une date symbolique liée à la désormais célèbre réplique « Que la Force soit avec toi », l'occasion de découvrir les sites de tournage qui sont d'abord de splendides sites naturels. Julien Lagache.
Dans une galaxie très très lointaine, il y avait l'ouest de l'Irlande. C'est dans son paysage sauvage, rocheux et a priori inhospitalier que Star Wars a récemment planté certaines parties de son univers pour profiter des décors naturels aux airs de mondes inconnus. L'archipel des Skellig est ainsi devenu la demeure de Luke Skywalker dans Le Réveil de la Force. Plusieurs scènes ont également immortalisé la péninsule d'Inishowen dans le nord du Donegal jusqu'à Malinhead, le cap nord de l'île, où l'on a pu apercevoir le célèbre Faucon Millennium dans le dernier opus de la saga culte. Une saga qui compte des millions de fans et autant de visiteurs potentiels sur les sites de tournage auxquels la franchise hollywoodienne a offert une publicité majeure. C'est pour tenter de capter cette manne que l'Irlande a mis en place le festival May the Force Be With You afin d'offrir aux aficionados des projections en plein air et à la belle étoile évidemment sous des latitudes qui laissent apercevoir aurore boréale et constellations expliquées par des spécialistes. L'événement se veut familial et bon enfant, pas étonnant donc de trouver des leçons de maniement de sabre laser en parallèle de séances de tai chi, des parades en costume de Yoda ou Dark Vador ou des chasses aux selfies avec des soldats Stormtroopers. Les sportifs peuvent faire le tour en kayak de Skellig Michael, une île accidentée au large du Kerry dont l'ancien monastère celtique devient un temple Jedi dans Star Wars. Pour les incontournables des nouvelles technologies, la visite aérienne en réalité virtuelle est aussi disponible. Un programme qui promeut au passage le patrimoine irlandais, en particulier la côte ouest que Dublin a baptisé la Wild Atlantic Way. Elle est déjà l'une des destinations touristiques majeures du pays et Dublin compte bien capitaliser sur la culture populaire autour de Star Wars pour la renforcer. Ce n'est sans doute pas par hasard que la route en direction du cap de Malinhead, la R242, vient d'être rebaptisée pour devenir la R2D2.
Et capitaliser sur tout ce public de cinéphiles, c'est ce qu'a bien compris aussi une agence de voyage croate qui a lancé un jeu concours autour de Game of Thrones, dont certains épisodes ont été tournés sur la côte dalmate, à la clé un séjour de luxe à Split et Dubrovnik, Simon Rico.
L'annonce a fait le tour d'Internet, réseaux sociaux, médias des quatre coins du globe. Ces dernières semaines, tout le monde ou presque a relayé l'offre de l'agence de voyage croate Unforgettable Croatia, Inoubliable Croatie. Un voyage de luxe all-inclusive à la découverte des lieux où Game of Thrones a été tourné sur la côte dalmate. Pour avoir une chance de gagner ce précieux cadeau, encore faut-il deviner la fin de la série culte et identifier qui grimpera sur le trône à l'issue de la 8e et dernière saison. L'agence Unforgettable Croatia propose au vainqueur de son jeu concours et à la personne de son choix de passer 3 nuits à Split et 4 à Dubrovnik. Dans la saison 5 de Game of Thrones, Split incarne dans quelques scènes la ville de Meereen, tandis que Dubrovnik, la perle de l'Adriatique, a été choisie pour représenter Port Réal ou King's Landing, la capitale des Sept Couronnes. Les deux chanceux seront hébergés dans des établissements étoilés et pourront visiter les sites de tournage accompagnés d'un guide. En revanche, le billet d'avion sera à leur charge. Selon une étude de l'Institut d'économie basée à Zagreb, entre 2012 et 2015, la série a attiré 244 000 touristes supplémentaires à Dubrovnik qui ont dépensé 126 millions d'euros.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.